Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Tout quitter sans se retourner. 10 000 personnes d'une vingtaine de communes ont été évacuées dans les Pyrénées-Orientales en proie aux flammes d'un incendie qui a déjà ravagé plus de 4 600 hectares. Coup de théâtre ce matin, Cédric Jubilard serait passé aux aveux dans une lettre adressée à ses avocats révélée par nos confrères de la Dépêche du Midi. Et le Mexique et le Brésil à la trappe, éliminés de la Coupe du Monde par l'Angleterre et la Norvège qui se retrouveront en quart de finale.
4600 hectares ont déjà brûlé dans les Pyrénées-Orientales.
Nouveau bilan de cet incendie qui n'est toujours pas fixé ce matin. Le plus important de l'année à ce jour, toujours en cours à l'ouest de Perpignan, obligeant les autorités à évacuer les habitants de 26 communes alentour. 10 000 personnes ont dû quitter leur maison à la hâte. C'est le cas à Lille-sur-Tête où s'est rendu notre envoyé spécial sur place, Rachel Sadodine.
Au-dessus de nos têtes, un balai constant d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. La fumée envahit le centre-ville, l'air irrespirable pique les yeux de Lina, déjà en larmes.
Ils ont dégagé tout le monde là-bas, la gendarme. Sortez, il faut sortir de la maison, parce que là-bas, la maison, elle brûle.
Sortie de chez elle à la hâte, avec seulement un sac à main, Lina peine à ravaler ses sanglots.
Il ne laisse pas rentrer. Il dit qu'il faut prendre des bus qui sont là. Je pars pas d'ici. C'est ma maison là, je parle pas d'ici.
Une dizaine de bus arrivent pour évacuer les habitants en panique.
Je vais pas aller à Perpignan, moi, il est chien, faut pas les laisser.
Aude habite Y-sur-Tête depuis 26 ans. Elle décrit une scène apocalyptique du jamais vu.
Ça brûlait juste à côté, du coup ça pète, il y a les voitures qui brûlent et ils nous ont demandé d'évacuer.
Vous voyez les flammes depuis chez vous?
Ah oui, moi je les ai vues, ouais. C'est impressionnant, l'odeur c'est insupportable. Attendez.
C'est une ambulance qui arrive pour prendre en charge une vieille femme juste à côté de nous.
Ça va aller madame?
Jusqu'ici retranchée dans la salle municipale, les habitants sont pressés d'évacuer la commune. Masque sur le nez, ceux qu'ils peuvent rejoindre leur voiture pour être accueillis chez des proches. Les autres trouveront refuge dans plusieurs gymnases de la région.
À noter qu'une personne, un habitant et un pompier ont été blessés en urgence absolue. Au total, 3000 soldats du feu sont en ce moment mobilisés dans le sud afin de lutter contre une vingtaine d'incendies comme dans la Drôme où plus de 500 hectares ont brûlé autour de l'Édénon. Un feu fixé ce matin mais toujours actif. Des feux et des conséquences dans les Pyrénées-Orientales. La troisième étape du Tour de France entre Granollers en Espagne et les Angles est maintenue mais adaptée sans public sur la partie française de l'étape.
Le peloton à l'épreuve de la chaleur aussi.
16 départements sont en vigilance orange de la Vendée aux Landes, des Pyrénées-Orientales à la Drôme. On pourrait atteindre les 40 degrés localement. Une troisième vague de chaleur en même pas de mois avec encore une fois de nombreuses interrogations. Géraldine Demory est restée avec nous. Géraldine, on ne connaît pas encore l'ampleur de cet épisode ni sa durée dans le temps.
Non, pour le moment, on n'a aucune date de fin. A priori, ce sera un épisode un peu moins intense que celui du mois de juin, hein, qui était historique, mais ça va être un épisode durable. Ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, les températures vont encore augmenter. Demain, les très fortes chaleurs épargneront seulement les bords de Manche, avec quand même 30 degrés. Les 40 degrés, eux, seront fréquents entre la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion. Les nuits vont devenir de plus en plus difficiles. On devrait avoir une évolution de la vigilance orange en direction des régions du centre et du bassin parisien. À partir de mercredi, les températures devraient assez peu évoluer. On va rester sur un plateau haut. Et ensuite, alors, les modèles ne sont pas tous d'accord. On pourrait avoir un air plus océanique ou alors une extension de la chaleur vers le nord. Ce qui est particulièrement difficile, en tout cas pour les organismes, c'est la répétition de ces épisodes de chaleur extrême sans réelle pause. Et c'est bien une manifestation très concrète du changement climatique.
Les précisions de Géraldine Demory.
7h04 sur RMC, des aveux qu'on n'attendait plus, ceux de Cédric Jubilard.
Il reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme Delphine en 2020 dans le Tarn et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Coup de théâtre dans cette affaire judiciaire qui a marqué les 5 dernières années, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est à 2 mois de son procès en appel qu'il confesse ses aveux, Marion Gauthier, dans une lettre adressée à ses avocats révélée ce matin par nos confrères de la Dépêche du Midi.
Oui, une lettre manuscrite et des aveux formels remis ces dernières semaines à l'un de ses avocats. Dans le document, Cédric Jubilard revient sur cette soirée du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, sur cette énième dispute avec son épouse Delphine. Elle envisage de refaire sa vie avec un homme, des insultes aux refusés, la dispute dégénère. Comment a-t-il tué l'infirmière de 33 ans? Où a-t-il caché son corps? L'accusé réserve les détails de la disparition à la justice. justice, déclare son avocat à la Dépêche du Midi. Maître Pierre de Buisson qui dit le soulagement de son client, son besoin de parler. Dans cette démarche, ajoute-t-il, Cédric Jubilard veut donner une sépulture à la mère de ses deux enfants. Il va devoir être réentendu. De nouvelles investigations devraient être menées. Le peintre plaquiste a été incarcéré, placé à l'isolement il y a 5 ans, condamné en octobre dernier à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel devrait s'ouvrir en septembre.
Les précisions de Marion Gauthier en direct ce matin pour RMC. L'avenir politique de Marine Le Pen en suspens. La chef de file des députés RN sera fixée sur son sort demain en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. En attendant, c'est tout sourire qu'elle s'est affichée hier à la fête champêtre de Liévin dans le Pas-de-Calais aux côtés de son dauphin, Jordan Bardella. Appelé à lui succéder en cas de condamnation comme en première instance à une peine d'inéligibilité, attente fébrile du côté de ses partisans au Rassemblement National rencontré hier par Sonia Gobry pour RMC.
Le sourire est là, mais Valérie camoufle son stress.
Ça approche, hein. On est.
Et c'est aussi le brouillard dans la tête de Liliane et Patricia.
C'est compliqué à répondre. On inquiète quand même.
J'espère en même temps, parce que je voudrais vraiment qu'elle passe, qu'elle puisse se présenter.
Ils le disent du bout des lèvres, mais chez ces militants du Rassemblement National, l'espoir d'une candidature de Marine Le Pen en 2027 est très mince.
Ça passera pas, non?
Malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Tout est fait pour.
Si les cadres du RN adoptent un ton plus mesuré et évitent maintenant d'attaquer frontalement les juges, les militants, eux, crient toujours au complot.
Ça, c'est clair. Je ne pense pas que la justice soit totalement impartiale en France. Donc, c'est quasiment joué, bien sûr.
Ouais, c'est un complot, pour pas qu'elle puisse se passer.
Mais je sais que le Rassemblement National saura rebondir.
Parce qu'il y a le plan B pour Bardella.
C'est pareil. On est une famille.
Si elle était toute seule, on n'avait rien derrière. Mais heureusement qu'il est là pour tous les gens du RN. Si Marine, malheureusement, elle ne pourra pas passer, ça sera Jordan. Pour tout le monde, c'est comme ça.
Ça sera Jordan. Elle sera derrière lui.
Marine Le Pen l'a promis, elle ne s'effacera pas. Le RN mènera cette campagne en binôme, même si elle doit passer la main à Jordan Bardella.
Et puis l'Angleterre file en quart de finale du mondial.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Qualifié cette nuit au Mexique, face au Mexique, 3-2 après sûrement le match le plus spectaculaire de ce mondial pour l'instant. Vous l'avez vécu sur RMC avec Edgar Grollo au commentaire. On vous retrouve, Edgar, ce matin. Vous êtes en direct du stade Azteca, un stade en larmes. À l'issue du coup de sifflet final au terme d'un match difficile pour les Anglais qui réussissent à sortir du piège mexicain.
Oui, les Anglais ont tenu plus d'une demi-heure en infériorité numérique et ont survécu l'enfer du stade Azteca, une rencontre jouée à 2200 mètres d'altitude à Mexico, dans une ambiance volcanique. Avant ce soir, les Mexicains n'avaient perdu que 2 matchs officiels dans leur histoire ici. C'était un scénario fou, un pénalty de chaque côté, un carton rouge pour les Anglais. Mais à la fin, ce sont bien les Three Lions qui continuent leur route en Coupe du Monde. Le capitaine Harry Kane a marqué son 6e but depuis le début de la compétition et le milieu de terrain Jude Bellingham a surtout signé un doublé. Nommé homme du match, il assure avoir vécu la plus belle soirée de sa carrière avec l'Angleterre et n'avoir jamais été aussi fier d'une équipe. Et grâce à cette victoire, l'Angleterre valide donc son billet pour les quarts de finale où elle retrouvera la Norvège samedi prochain.
La Norvège, tombeur du Brésil de 2-1, qui se qualifie donc pour la première fois de son histoire en quarts de finale grâce à un doublé d'Erling Haaland. Neymar, qui marque le but brésilien sur pénalty, annonce en larmes la fin de son aventure avec la Seleção à suivre ce soir. L'Espagne et le Portugal, 21h sur RMC, suivi de Belgique et États-Unis. Les Américains avec leur attaquant Balogun qui a vu son carton rouge levé après un coup de fil de Donald Trump au président de la FIFA.
C'était le journal de Thibaut Texer.